إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on a donc terminé la semaine dernière les questions liées aux conditions de la prière. On va donc commencer ce soir, inshallah ta'ala, les questions liées aux piliers de la prière. Il a donc dit, rahimahullah, wa arkanu salati arba'atu ashar. Les piliers de la prière sont au nombre de 14. Comme on a dit lors du premier cours, les piliers de la prière, c'est ce dont la prière est constituée. Elle ne peut être valide sans l'accomplissement de ces piliers. Et la différence entre les piliers et les conditions, c'est que les conditions, elles précèdent la prière et elles continuent durant celle-ci, alors que les piliers, ce sont les actes et les paroles qui constituent l'essence même de la prière. Et ils sont au nombre de 14, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala, et on va les énumérer, inshallah. Et ni l'oubli, ni l'ignorance ne dispensent de l'accomplissement de ces piliers. Il est donc d'autant plus interdit de les délaisser volontairement. C'est-à-dire qu'en cas d'oubli d'un pilier, il ne peut pas être compensé par les prosternations de l'oubli. Mais il est indispensable, pour que la prière soit valide, d'accomplir l'ensemble de ces piliers. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, comme pour les conditions, il a tout d'abord commencé par les énumérer de manière générale, puis il va revenir sur chacun des piliers en mentionnant les preuves de ceci. On va donc les lire tout d'abord, et après on mentionnera les piliers un à un, avec les explications les concernant. Il a dit, rahimahullah, Al-qiyamu ma'al-kudra. Le premier pilier, c'est la station debout, le fait de se tenir debout pour celui qui en a les capacités. Wa takbiratul ihram, et le takbir de sacralisation, le fait de dire Allahu Akbar, le premier takbir de la prière. Ceci est le deuxième pilier. Wa qira'atul fatiha, la récitation d'al-fatiha, surat al-fatiha. Wa ar-ruku', l'inclinaison. Wa ar-raf'u minhu, le fait de se relever du ruku'. Wa as-sujoodu 'ala al-a'dha'i as-sab'a, la prosternation sur les sept membres. On verra lors de l'explication quels sont ces sept membres. Wa al-i'tidalu minhu, et le fait de se relever de la prosternation. Wa al-jalsa bayna as-sajdatayn, l'assise entre les deux prosternations. Wa at-tumanina fi jami' al-arkan, la quiétude dans l'ensemble des piliers. Wa at-tartib, le fait de les faire dans l'ordre. Wa at-tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud. Wa al-julusu lah, le fait d'être assis pour le faire. وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, la prière sur le prophète صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. وَالتَّسْلِيمَتَانِ, et les deux salutations. Ceci sont donc les 14 piliers de la prière que l'auteur rahimahullah ta'ala a énuméré ici. Il dit ensuite rahimahullah, الرُّقْنُ الْأَوَّلْ الْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ, le premier pilier, c'est la station debout, ou le fait de se tenir debout, pour celui qui en a les capacités. La station debout, c'est donc le premier pilier de la prière. Mais l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a précisé « pour celui qui en a les capacités ». Car celui qui est incapable de se tenir debout, alors il lui est permis de prier assis ou dans la position dans laquelle il peut prier. Comme le prouve le hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Imran ibn Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « prie debout. Si tu ne peux pas, alors prie assis. » Et si tu ne peux pas, prie couché sur le côté. Il est donc permis pour celui qui a une excuse de prier assis ou couché en fonction de sa situation et de ses capacités. Et ceci entre dans la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ, craignez Allah autant que vous pouvez. C'est-à-dire que ce n'est pas toute maladie qui permet de prier assis. Ce n'est pas simplement parce que tu as un rhume ou une maladie légère comme celle-ci qu'il t'est permis de prier assis. Mais ce qui permet de prier assis, c'est l'incapacité de se tenir debout. C'est-à-dire que tant que tu es capable de te tenir debout et qu'il n'y a aucune nuisance dans le fait de te mettre debout, alors il est obligatoire pour toi de prier debout. Et il ne t'est pas permis de t'asseoir alors que tu es en capacité de te mettre debout. Et il est important de souligner cela car on observe une certaine négligence ou un certain laxisme à ce sujet chez certaines personnes. En effet, on observe certains, lorsqu'ils viennent à la mosquée, ils arrivent en marchant, normalement, debout, il rentre dans la mosquée
il prend une chaise et s'assoit pour prier. Et puis après la prière, tu le vois, il sort, il reste debout 15, 20, 30 minutes ou plus encore en train de discuter. Et il n'a pas de mal à se tenir debout. Et ceci est une grave erreur. Si tu as les capacités de tenir debout, alors il est obligatoire pour toi de te tenir debout en prière. Et tu pries en fonction de tes capacités. Si par exemple tu ne peux pas te prosterner à cause de douleurs genoux ou autres, au moment de la prosternation, alors tu vas t'asseoir sur une chaise. Mais tu ne t'assois pas dès le début de la prière alors que tu peux tenir debout. Fattakullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Tous les gestes que tu peux accomplir de la prière, tu les fais autant que possible. Et même si la personne, elle est immobilisée, elle ne peut plus bouger, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors même dans cette situation, elle doit prier. Et les savants, ils ont dit, il entre en prière, ne serait-ce qu'avec son cœur, et il fait comme s'il accomplissait les mouvements de la prière. Allahu Akbar. Ceci nous montre l'importance de la prière. Même dans cette situation, même dans les situations les plus difficiles, la personne, elle n'est pas excusée pour le délaissement de la prière. Alors que dire d'une personne qui délaisse la prière alors qu'elle a de bonne santé? Wallahu al-musta'an. Et il est important de souligner ici également l'erreur, ou plutôt l'ambiguïté, qu'ont certaines personnes qui pensent que lorsqu'ils sont malades ou hospitalisés ou autres, ils n'ont pas besoin de prier. Et ceci est une chose courante et répandue. Et ceci également est une grave erreur. En effet, la prière, elle est obligatoire même pour le malade. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé des facilités au malade, lui permettant d'alléger cette obligation selon ses difficultés. S'il ne peut pas être debout, qu'il est dans l'incapacité de se tenir debout, il peut prier assis, ou même coucher s'il ne peut pas se mettre assis. S'il ne peut pas faire les ablutions avec de l'eau, que l'eau lui nuit, il lui est possible de faire le tayammum. Si c'est difficile pour lui d'accomplir chaque prière en son temps, il peut réunir le dhuhr avec l'asr et le maghreb avec l'isha. Ceci sont des facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées aux malades pour qu'ils ne délaissent pas cette obligation qui est d'accomplir la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam. On voit donc, à travers toutes ces règles, l'importance de la prière et l'importance de ne pas négliger cette obligation. Et est-ce que la station debout est un pilier pour toute prière? La réponse est non, mais ce n'est un pilier que pour les prières obligatoires. Quant aux prières surérogatoires, alors il est permis de les accomplir assis. En effet, il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait parfois la prière de nuit assis. La prière de nuit, donc, qui est une prière surérogatoire. Également, lors de ses voyages, il accomplissait les prières surérogatoires assis sur sa monture. Ceci nous prouve donc que pour les prières surérogatoires, ce n'est pas un pilier de se tenir debout, mais c'est une sunnah. Car il est meilleur de prier debout. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « La prière assis vaut la moitié de la prière debout. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que celui qui accomplit une prière surérogatoire assis, alors qu'il peut la prier debout, sa prière est diminuée de moitié en termes de récompense. Donc pour la prière surérogatoire, la station debout est recommandée et ce n'est pas un pilier. Mais en ce qui concerne la prière obligatoire, c'est un pilier et il est interdit de le délaisser pour celui qui en a les capacités. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit « وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى وَكُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon la traduction des sens rapprochés, soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc ordonné clairement dans ce verset de se tenir debout dans la prière. Et avant cela, il nous a ordonné l'assiduité dans les prières et spécifiquement la prière médiane, c'est-à-dire la prière de l'asr. Et l'assiduité dans la prière, cela désigne le fait de les accomplir comme il se doit, en respectant leurs conditions, leurs piliers et leurs obligations, en accomplissant chacune de ces prières en leur temps. Et le fait de préserver tes prières, en étant assidu dans leur accomplissement, c'est une cause pour préserver toutes tes autres adorations. Car la prière est le pilier de la religion. est la plus importante des obligations en islam après les deux attestations de foi. En effet, il n'y a pas une obligation plus importante après le tawhid que l'accomplissement de la prière. De même, celui qui accomplit ses prières comme il se doit, tout en étant assidu dans l'accomplissement de ses prières, alors cette prière, elle le préservera et l'éloignera de la turpitude et du blâmable. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. C'est-à-dire celui qui est assidu dans ses prières, qui accomplit ses prières comme il se doit, en respectant l'ensemble de leurs conditions, de leurs piliers, de leurs obligations, alors ces prières-là, elles éloignent, elles préservent de la turpitude et du blâmable. Donc tu profiteras spécifiquement de cela si tu parfais ta prière en l'accomplissant comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Et il nous dit ici dans ce verset, « وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité, c'est-à-dire avec khushu'. Il y a donc dans le verset l'ordre de se tenir debout, mais aussi l'ordre de se tenir debout avec humilité, c'est-à-dire avec khushu', avec quiétude dans ta prière. Et le khushu', il fait partie des œuvres les plus importantes de la prière. Et parmi les choses qui s'opposent au khushu', il y a le fait de faire beaucoup de mouvements et de gestes inutiles durant la prière. Cependant, il faut savoir qu'il n'y a pas de mal à faire certains mouvements qui sont dans l'intérêt de la prière. Et les gens à ce sujet, ils se divisent en trois catégories. Deux catégories opposées et une catégorie du juste milieu. La première catégorie, c'est ceux qui exagèrent. Ils exagèrent dans le fait de ne pas bouger en prière. Dès qu'ils entrent en prière, ils se figent. Même si par exemple, il y a un espace à combler à sa droite ou à sa gauche dans le rang, il ne va pas bouger. Si tu le tires, il ne veut pas bouger. Tu essayes de le rapprocher de toi pour combler le vide, mais il ne bouge pas comme si ses pieds, ils étaient plantés au sol. Et ceci est une erreur et de l'exagération. La deuxième catégorie, c'est son opposé. C'est ceux qui bougent tout au long de la prière. Il bouge ses pieds, il bouge ses mains, il touche sa barbe, il retrousse ses manches, il joue avec ses vêtements. Et on en voit même parfois, Wallah al-Musta'an, ils regardent leur montre pendant la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme ainsi qu'eux. Tous ces gestes, ce sont des gestes qui sont inutiles dans la prière et qui s'opposent au khushu'. Ils s'opposent à la quiétude et à l'humilité qui est demandée chez celui qui accomplit sa prière. Cependant, est-ce que ces gestes annulent la prière? Il faut savoir que pour que les mouvements annulent la prière, alors ils doivent remplir trois conditions. La première condition, c'est que ces mouvements soient longs, c'est-à-dire qu'ils soient nombreux. Et il n'y a pas de nombre précis déterminé, mais cela revient à l'usage. Ce sont les gestes qui s'opposent à la prière, de sorte que si quelqu'un te voit, il ne saura pas si tu pries ou si tu ne pries pas. Donc ces gestes-là, qui sont nombreux, ils peuvent annuler la prière, s'ils remplissent les deux autres conditions. Quant à ceux qui ont dit que cela était trois mouvements, c'est-à-dire qu'à partir de trois mouvements inutiles, la prière est annulée, alors pour affirmer cela, il y a besoin d'une preuve, et il n'y en a pas. La deuxième condition, c'est que ces gestes ou ces mouvements ne soient pas faits par nécessité, c'est-à-dire que ce sont des gestes inutiles, comme ceux que l'on a mentionnés. Donc si un geste est fait par une nécessité, alors il n'y a pas de mal. Par exemple, une personne a le nez qui coule en prière. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle prenne un mouchoir dans sa poche et qu'elle se mouche. Ou alors, tu entres en prière et tu te rappelles que tu as oublié de mettre ton téléphone en silencieux. Les gens de science ont mentionné qu'il n'y avait pas de mal que tu fasses les mouvements nécessaires pour mettre ton téléphone en silencieux avant qu'il sonne, car ceci est dans l'intérêt de la prière. Et il y a une nécessité. Ça ne s'oppose pas à la quiétude et à l'humilité demandées. La troisième condition est que ces gestes soient faits les uns à la suite des autres. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas séparés. S'il y a un geste à la première unité, un autre à la deuxième unité, ceci ne nuit pas et n'annule pas la prière. C'est un manque de khushu', mais ça n'annule pas la validité de la prière. Donc pour que les mouvements inutiles, ils annulent la prière, il faut impérativement que ces trois conditions soient réunies. Qu'ils soient nombreux, qu'ils soient faits sans nécessité et qu'ils soient faits les uns à la suite des autres. Si ces trois conditions sont réunies, la prière est annulée et la personne doit la recommencer. On a donc dit les deux catégories opposées, les deux extrêmes. Il reste la troisième catégorie, qui est celle du juste milieu. C'est-à-dire que tu ne bouges pas en prière, tu fais preuve de quiétude, tu pries avec khushu', sauf pour intérêt de la prière, et t'es permis de bouger. Il y a un espace vide à ta droite ou à ta gauche dans le rang, tu te décales pour le combler. Il y a une place qui se libère dans le rang qui est devant toi, tu t'avances calmement pour combler cet espace. Tu as manqué des unités de prière? Tu as besoin de faire un ou deux pas pour te rapprocher d'une sutra? Il n'y a pas de mal, car tout ceci est dans l'intérêt de la prière. Donc il n'y a pas de mal à faire ces mouvements. Et ceci sont des choses qui ne nuisent pas à la validité de la prière, ni à sa perfection, car ceci est fait justement dans l'intérêt de la prière. On a donc dit que le premier pilier de la prière, c'est la station debout. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il mentionne le deuxième pilier et il dit « Al-thani, takbiratul ihram ». Le deuxième est le takbir de sacralisation. Le takbir, c'est-à-dire le fait de dire « Allahu Akbar ». Car c'est ainsi que tu entres en prière. Et le takbir de sacralisation, c'est le premier takbir que tu fais au moment d'entrer en prière. Il dit, rahimahullah, وَالدَّلِيلِ حَدِيثِ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرِ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمِ. La preuve et le hadith sont tahrim et le takbir et son tahlil et la salutation. Ce hadith est rapporté entre autres par Abu Dawud et Tirmidhi et il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de la prière, il a d'abord dit la clé de la prière est la purification, c'est-à-dire les ablutions. Son tahrim est le takbir. Son tahrim, c'est-à-dire ce par quoi tu entres en sacralisation. Et pourquoi il a été appelé tahrim? Car lorsque tu entres en prière, il y a certaines choses qui deviennent haram, comme le fait, par exemple, de manger ou de boire. Ces choses, elles deviennent haram pendant la prière. C'est pour cela que le takbir, il est appelé takbiratul ihram. Tu entres en sacralisation, dans le sens où il y a des choses qui deviennent interdites pour toi. Donc son tahrim, c'est le takbir, le fait de dire Allahu Akbar lorsque tu entres en prière. Et son tahlil est la salutation. Le tahlil, c'est-à-dire que ces choses qui étaient interdites durant la prière, elles redeviennent halal, elles redeviennent licites. Par quoi? Par la salutation. Lorsque tu accomplis tes salutations finales à la fin de la prière, les choses qui t'étaient interdites en prière, comme manger, boire et parler, alors elles redeviennent permises pour toi. Donc au début de la prière, tu fais ce takbir. Et la sunna lors de ce takbir est de lever les mains à hauteur des lobes des oreilles. Tu les lèves en mettant tes paumes face à la qibla. Et il est important de souligner une chose ici, c'est que ce takbir, il est obligatoire de l'accomplir alors que tu es debout. Pour celui qui en a les capacités, bien sûr. On a vu que le premier pilier, c'est quoi? C'est se tenir debout. Donc la première chose que tu fais au moment de prier, c'est que tu te mets debout. Et ensuite, tu fais le takbir. Je dis ça car il y a certaines personnes, notamment lors de la prière en commun, lorsqu'elles arrivent en retard et que l'imam s'incline, ils se précipitent de s'insérer en prière et parfois elles font le takbir en train de s'incliner. C'est-à-dire qu'ils sont en train de partir en inclinaison, ils font le takbir à ce moment-là avec précipitation. Et ceci est une erreur. Il est obligatoire d'accomplir le takbir en étant debout. Et tu atteins de la prière ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'atteindre. Si l'imam se relève et que tu loupes une unité de prière, ce n'est pas grave, l'essentiel pour toi est d'accomplir le takbir de sacralisation en étant debout. Donc tu t'insères dans le rang, tu te mets debout, tu fais le takbir et ensuite tu rentres avec l'imam. Ensuite le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a mentionné certaines choses qui ne font pas partie des piliers de la prière. Mais il l'a mentionné dans le but de décrire l'ensemble de la prière. Il a dit, rahimahullah, وَبَعْدَهَا الْإِسْتِفْتَاحِ وَهُوَ سُنَّةِ. Et après celui-ci, c'est-à-dire après le takbir de sacralisation, il y a الْإِسْتِفْتَاحِ, c'est-à-dire l'invocation d'ouverture. L'invocation d'ouverture de la prière. Il dit, وَهُوَ سُنَّةِ. Et cette invocation, c'est une sunna. Elle ne fait partie ni des piliers, ni des obligations de la prière. Cependant, il convient d'accomplir cette sunna en prenant exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui faisait ses invocations au moment de commencer sa prière. Et il dit, rahimahullah, قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Donc tu fais cette invocation après avoir fait le takbir de sacralisation. Et il y a d'autres invocations qui sont légiférées à ce moment-là. Tu peux les retrouver ou bien dans le livre de Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, sur la description de la prière, dans lequel il les a mentionnés, ou encore dans le livre Husnul Muslim, la citadelle du musulman. Ces invocations-là, elles sont mentionnées. Et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, ici, il nous a mentionné celle-ci. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Pureté à toi, ô Allah, et à toi la louange, que ton nom soit béni, ta majesté élevée, et il n'y a pas de Dieu autre que toi. C'est-à-dire, il n'y a pas de vrai Dieu autre que toi, digne d'être adoré. Et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il va nous expliquer cette invocation. Car c'est important de comprendre les termes que l'on emploie dans la prière. Ceci va nous aider au khushu', ceci va nous aider à la concentration. Il dit, rahimahullah, وَمَعْنَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَيْ أُنَزِّهُكَ التَّنْزِيهَ اللَّائِقَ بِجَلَالِكَ. Et le sens de سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ, pureté à toi, ô Allah. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, je te purifie d'une purification qui convient à ta majesté. Et cette purification, d'où on la tire? On la tire du livre et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, du Coran et de la sunna. Et cette purification, elle consiste à renier au sujet d'Allah tout ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a renié concernant sa propre personne. Et tout ce que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a renié concernant son Seigneur. Par exemple, on renie au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala toute imperfection, comme le sommeil et la somnolence, comme il l'a dit dans Ayat al-Kursi. Ceci est donc la purification qui convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas comme font certains groupes parmi les gens de l'innovation qui ont exagéré dans la purification au point de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait les Jahmiyyah, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira et d'autres parmi les groupes des gens de l'égarement et de l'innovation. On purifie donc Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui convient à sa majesté. Et ceci est le sens de Subhanakallahumma. C'est-à-dire que tu renies toute imperfection au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit wa bihamdik, et à toi la louange. Aï, thana'un alayk, c'est-à-dire, je t'adresse les louanges et les éloges. C'est-à-dire que toutes les louanges, toutes les éloges, elles reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il se caractérise par les attributs de perfection subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa tabarak asmuk, que ton nom soit béni. Aï, al-barakatu tunalu bi dhikrik. Il dit, rahimahullah, c'est-à-dire que la bénédiction, la baraka, elle s'obtient en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que par l'évocation d'Allah, en faisant du dhikr, tu obtiens ainsi la baraka. Tu obtiens sa bénédiction, et c'est ainsi que l'imam, rahimahullah, a expliqué cette invocation. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa ta'ala jadduk, que ta gloire soit élevée. Ay, jallat azamatuk. C'est-à-dire que se manifestait ta majesté. Jadduk, le sens ici, c'est l'immensité, la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se passe de toutes choses. C'est pour cela que sa majesté, sa gloire, elle est élevée, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa la ilaha ghayruk, et il n'y a pas de vrai Dieu en dehors de toi. Ay, la ma'bouda fil ardi, wa la fis sama'i bihaq, siwaka ya Allah. C'est-à-dire, il n'y a personne en droit d'être adoré sur terre, ni dans les cieux, si ce n'est toi, ô Allah. Ceci est le sens de la parole lorsque tu dis La ilaha ghayruk. Personne n'est en droit d'être adoré. Il n'y a pas de vrai Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il y a des autres divinités, mais ce sont des fausses divinités qui ne sont pas en droit d'être adorées, car seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Ensuite, il dit, rahimahullah, après avoir expliqué le sens de cette invocation, wa a'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est-à-dire que après avoir fait cette invocation, tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en prononçant al-isti'adha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous explique l'isti'aza en disant « Ma'na a'oudhu, a'loudhu, wa altaji'u, wa a'tasimu bika ya Allah min ash-shaytani ar-rajim, al-matrud, al-mub'ad, an rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, la yadurruni fi dini, wa la fi dunyai. » Donc lorsque tu dis « A'oudhu billahi min ash-shaytani ar-rajim, je cherche protection auprès d'Allah contre le diable lapidé. » Le sens de la recherche de protection, c'est-à-dire que tu cherches refuge. Tu te tournes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui demandes refuge et protection contre le diable lapidé, le banni et éloigné de la miséricorde d'Allah. Ceci est le sens de Rajim. C'est-à-dire qu'il est lapidé, banni et éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre lui, pourquoi ? La yadurruni fi dini wa la fi dunyai. Afin qu'il ne me nuise pas, ni dans ma religion, ni dans mes affaires mondaines. C'est-à-dire que le diable ne t'influence pas dans ta religion, ni dans ta croyance, ni dans tes adorations. Tu commences donc à faire l'isti'adha, et ce, avant de réciter la Fatiha. Et cette invocation, ainsi qu'à l'isti'adha, elles ont lieu à voix basse. Que tu pries seul, ou que tu sois imam, ou que tu pries derrière un imam. Ceci doit être fait à voix basse. Quant à takbirat al-ihram, quant au takbir de sacralisation, il n'est légiféré de le faire à voix haute que pour l'imam. Il n'y a que l'imam qui doit le faire à voix haute. Quant à celui qui prie derrière l'imam, il n'est pas nécessaire pour lui d'élever sa voix, que ce soit le takbir de sacralisation ou les autres takbirs durant la prière. Mais tu le prononces avec tes lèvres, sans élever la voix. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, il va mentionner le troisième pilier qui est la récitation de la Fatiha. Il va mentionner la preuve de ce pilier et ensuite, il va nous expliquer l'essence de la Fatiha. Et on verra cela, incha'Allah ta'ala, dans notre prochaine assise de la semaine prochaine. On va donc s'arrêter là pour ce soir, incha'Allah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.